Voilà, je voudrais partager quelques pensées avec vous. Nous attardons sur la question du sacerdoce universel depuis plusieurs dimanches et je devais normalement continuer. Mais en priant hier matin, vraiment le Seigneur m'a interpellé pour que je continue d'insister sur la question de la prière. Nous avons parlé de la prière dimanche dernier, je vais faire un rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle que nous avons un site internet, c'est une chance, et que sur ce site internet, vous pouvez entendre les prédications quand vous n'avez pas été là. Et que je crois que c'est important que vous les écoutiez quand vous êtes absent, parce qu'il y a une continuité dans ce que Dieu dit à l'Église. Et quand il vous manque quelque chose dans la continuité, ça peut être gênant. Et moi, je vous encourage vraiment à le faire. Personnellement, je le fais. Si je ne suis pas là à une réunion, je veux écouter ce que Dieu a dit au travers de celui qui a prêché. Parce qu'il parle à mon Église, et ça m'intéresse de savoir ce que Dieu dit à mon Église. Je vous encourage vraiment à le faire quand vous êtes absent. C'est une grâce, c'est un privilège qu'on a. Hein. Avant, il fallait enregistrer des cassettes, les commander, des machins et tout ça. Moi, je voudrais aussi qu'on encourage l'équipe technique, l'équipe qui enregistre, et puis aussi Maoussi, qui est chargée de mettre ça sur le site internet. Hein, on peut les applaudir quelques instants, les encourager. Vous savez, on a tendance à faire des catégories, mais c'est un travail éminemment spirituel que de pouvoir mettre des prédications en ligne. Dernièrement, une personne a dit « Je viens ici parce que j'ai écouté les prédications et ici, c'est vraiment la parole qui est enseignée. » Elle a pu, avant de venir, écouter, savoir ce qui est prêché ici. C'est super, non ? Il y a quelques temps de ça. Enfin, moi qui suis plutôt jeune, si je voulais savoir ce qui est prêché dans une église, il fallait que j'y aille, je n'avais pas d'autre choix. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement... Donc c'est vraiment un ministère important et je vais encourager les frères et les frères et sœurs qui s'en occupent. Il faut vraiment que vous preniez ça à cœur, c'est tellement important. Amen. Vous le prenez déjà à cœur. Donc, petit rappel de la semaine dernière. On a vu dans la liste de ce que représente le sacerdoce. On a vu le sacerdoce, c'est un sacrifice. Le sacerdoce, c'est un service. Le sacerdoce, c'est aussi la prière. Le sacerdoce, c'est la prière. On a vu dans un premier temps la nécessité de prier. Jésus, devant les foules sans berger, quand il a vu tous ces gens qui erraient sur terre et qui n'avaient pas de but, qui ne connaissaient pas Dieu, il a été touché dans son cœur. Et vous savez sa réaction quand il a été touché ? Ça n'a pas été de faire un programme, de dire ouais, « qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme truc pour attirer les âmes ?» Il a dit « priez, priez ». Priez, la moisson est grande, priez. Notre première intention, ça doit être la prière. Je ne suis pas contre les méthodes. Ici même, nous appliquons des méthodes, nous avons un programme, nous avons une organisation. Mais ce n'est pas sur ça qu'il faut s'appuyer, surtout pas. Ce sur quoi on doit s'appuyer, c'est la prière. Puis on a parlé aussi de la question de la prière individuelle et la prière collective. Je ne peux pas juger en tant que pasteur d'où en est votre prière individuelle. Ce serait bien malvenu de dire « Oh lui, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Oh, lui, j'en sais rien en fait. Grâce à Dieu, pour vous, tant mieux pour vous, je ne peux pas vous surveiller tout au long de la semaine pour savoir ce que vous faites. » Mais il y a une chose que je peux voir, c'est que l'église de Colomiers n'a pas encore suffisamment pris conscience de l'importance de la prière collective, du fait qu'on doit prier ensemble. Les deux choses sont indissociables. Si vous priez individuellement, vous devez aussi prier avec les frères et sœurs. Si vous priez avec les frères et sœurs, ça veut dire que d'abord, vous avez une vie de prière individuelle, sinon vous venez à l'église et vous priez, alors que tout le reste de la semaine, vous ne vous adressez même pas à Dieu, ça s'appelle quoi ? Ça commence par H et la deuxième lettre, c'est un Y. Dieu dénonce ça. Hein. Dieu dénonce cela. On veut être vrai devant le Seigneur. Et vraiment, je voulais vous encourager. Je me rappelle de pasteur Jean-Michel Lozano qui a été parmi nous, qui a cité une phrase qu'on a tous entendue. Hein. on voit le baromètre d'une église. Le baromètre d'une église, c'est la fréquentation de la réunion de prière. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est pas une question de tradition, c'est pas une question de dire « Moi, dans mon église, il y a du monde à la réunion de prière. » Je me moque de tout ça. Franchement, je me moque de tout ça. Je sais par expérience que tout commence quand les chrétiens se mettent ensemble et prient. Tous les réveils ont commencé par des personnes qui se sont réunies et qui ont prié ensemble. Et nous l'avons vu dans les Actes des apôtres, les premiers chrétiens, quand il y avait un souci, une difficulté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient pour prier ensemble. Et nous avons besoin d'avancer, et je bénis le Seigneur parce que mardi soir déjà, on a avancé. On était plus nombreux, et ça a vraiment touché mon cœur. Et je suis sûr, d'abord le cœur de Dieu. Quand on fait des jeûnes et prières dans l'église, c'est pas juste pour avoir un programme, c'est parce que c'est une nécessité à des moments de se trouver devant Dieu et de jeûner et prier. En conclusion, on avait parlé de l'église d'Éphèse, où et dans les Actes des Apôtres et dans l'épître aux Éphésiens, on voit que c'est vraiment une église qui a le feu, qui a la foi. Ils sont là, ils prient sur le rivage avec Paul avant qu'il aille à Jérusalem, ils le soutiennent. Vraiment, c'est des chrétiens exemplaires. Et d'ailleurs, quand il est reparlé de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, les premières choses qui sont dites, c'est une église extraordinaire, qui a tenu bon, qui est attachée à la parole, etc. Et puis il y a un mais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Quand on se convertit, on est là à toutes les réunions, on a soif, on en veut, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis au fil du temps, on dit, bon, oh, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? Puis de toute façon, je prie chez moi. Puis, vous savez, toutes ces choses qu'on se dit pour se rassurer, dire qu'en fait, on fait ce qu'il faut. Mais ne nous laissons pas piéger par l'ennemi. Parce qu'on veut tous, ça y est, une certitude que j'ai, c'est que vous aimez tous le Seigneur. Et comme il y a eu des compliments sur l'église d'Éphèse, même s'il y avait le petit mais, il y avait aussi beaucoup de compliments, c'est pareil pour Colomiers. Le tableau n'est pas noir à Colomiers, c'était une belle église, une bonne église, où nous, on a plaisir avec Valérie d'exercer notre ministère, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on aspire à aller plus loin. C'est juste ça, on aspire à aller plus loin. Et on sait qu'on n'ira pas plus loin si on ne commence pas par le fondement, qui est la prière. Et je voulais vous encourager au travers de cette prédication, que vraiment le Seigneur... Vous savez, il y a des prédications comme ça, vous cherchez pendant... Vous êtes à votre bureau et vous cherchez. Et là, alors que je priais hier matin, le Seigneur m'a donné les pensées, le plan, tout, paf, en une minute. Et voilà, je suis pas dans le souci de savoir si je partage la pensée de Dieu, j'en suis vraiment sûr ce matin. Surtout qu'en plus, hier, trésor quotidien, Jésus a montré l'exemple en étant lui-même en prière, on va le voir. C'était dans le plan que le Seigneur m'avait donné. Et puis ce matin, je reçois, vous savez, le truc passe le mot, là. Et puis c'était encore la prière. Et je pense que le Seigneur veut insister là-dessus. Donc s'il veut insister, il faut qu'on soit à l'écoute. J'aimerais vous dire ce matin que la prière, c'est une relation. Déjà, il faut commencer par prier comme il convient. Parce que souvent, on a fait de la prière juste un rituel. Une espèce d'habitude, ou peut-être quelque chose pour apaiser notre conscience. Moi, je prie tous les matins. Je parle pour moi en premier. Tous les matins, je passe du temps à prier. Mais est-ce que c'est un rituel ou c'est vraiment une relation? On va lire dans Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. On voit déjà que Jésus lui-même priait. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié. » Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Et ne nous induit pas en tentation sur cette dernière phrase. Vous le savez, la traduction n'est pas bonne. Dieu ne nous induit pas en tentation. On pourrait traduire « Protège-nous de la tentation, aide-nous face à la tentation » ou une phrase comme ça conviendrait mieux. Une chose est certaine, c'est que Jésus ne nous a pas seulement demandé de prier, mais il nous a premièrement donné l'exemple. Moi, c'est ce que j'aime chez Jésus, c'est que souvent on dit lisez l'évangile pour écouter l'enseignement de Jésus. Mais moi, je dis aussi pour regarder l'enseignement de Jésus. Parce que par ce qu'il est, il nous enseigne. Pas seulement par ce qu'il dit. Par ce qu'il est, par ce qu'il fait, il nous enseigne. Et Jésus, c'est un exemple dans le domaine de la prière. Je vous ai mis, pour ceux qui prennent des notes, ça va rester affiché pendant un petit temps, les versets, des exemples de versets où il nous est dit que Jésus s'est mis à part pour prier. Jésus, le Fils de Dieu, qui, j'en suis persuadé, est en relation avec le Père tout le temps. Quand il marche, quand il est en train de manger, il est tout le temps en relation avec le Père. Et moi, j'entends des gens me dire, mais pasteur, pourquoi vous voulez que je prie là, que je fasse vos trucs là, mais moi je suis tout le temps en relation avec Dieu. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Alors tu vas dire à ton épouse, alors que tu fais tes occupations, tu es dans la maison, tu tournes, tu es à droite, à gauche, ben voilà, tu fais tous tes trucs, mais je suis avec toi, je suis en relation avec toi. Au bout d'un moment, elle va te dire, oui, mais j'aimerais bien que tu t'arrêtes un peu et qu'on puisse avoir un moment tous les deux, vraiment. Et on a besoin de ces temps où on s'arrête. Et Jésus, qui était en relation avec Dieu toute la journée, la preuve, c'est qu'il accomplissait des miracles, il enseignait, que tout le monde était impressionné par son autorité. Bon, il n'y a pas de doute sur le fait que Dieu accompagnait Jésus dans toutes ses journées. Jésus éprouvait quand même le besoin, à certains moments, de dire stop. Maintenant, c'est un tête-à-tête. Un moment seul à seul avec Dieu. Ça, c'est la base. C'est la base. Je vous encourage à venir aux réunions de prière le mardi soir. Mais la première chose à laquelle je vous encourage, c'est le face-à-face et le lieu secret. C'est là que ça démarre. D'ailleurs, si vraiment vous avez un lieu secret et que vous vous laissez interpeller par Dieu, vous n'aurez pas besoin de penser est-ce que je dois venir à la réunion de prière ou pas. Dieu va vous dire, tiens, tu dois y être, c'est là ta place. Bien sûr, comme je l'ai dit la semaine dernière, on n'est pas là à compter les absents. Si un soir vous ne pouvez pas venir, il n'y a rien de dramatique. Mais une présence régulière, c'est important. On va revenir sur certains des passages qui sont inscrits. Mais on l'a lu dans le texte de Luc, c'est justement après un temps de prière de Jésus qu'un disciple a été intéressé pour savoir comment il fallait prier. Le vécu avant l'enseignement, c'est la base. Et j'aimerais aussi vous faire réfléchir en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? Est-ce que nos enfants nous voient prier? Est-ce que nos enfants nous voient prier? Est-ce qu'ils nous voient nous retirer à certains moments pour prier? Est-ce qu'ils voient ça dans notre maison? Est-ce qu'ils nous voient partir le mardi soir? Ou est-ce que ce serait bien aussi qu'ils nous accompagnent le mardi soir? Et pour certains, c'est le cas et on s'en réjouit. Tout ça est important parce qu'on va dire à nos enfants qu'il faut qu'ils prient. On va leur dire que c'est très important la prière. Mais on l'a vu, ce qui enseigne en premier, c'est ce qu'on fait, ce qu'on est. Jésus, il ne priait pas pour accomplir un rituel. Moi, c'est mon combat. En ce moment, c'est mon combat. Je n'ai pas de problème pour dire, j'ai des heures qui sont bloquées et je dis ça, c'est pour le Seigneur. Je n'ai pas de problème avec ça. Au contraire, même, j'y aspire. Mais quand je fais le bilan, je me dis, tout ce temps passé avec Dieu, il y a quoi? Le contenu, c'est quoi? Et je dois reconnaître que souvent, c'est ritualisé, c'est des habitudes, ça manque de spontanéité. J'ai besoin, et je le dis devant vous, de vivre autre chose, de vivre des choses plus incroyables, plus relationnelles. Vous savez, la relation avec Dieu, c'est comme la relation avec un père. Alors évidemment, on met toujours des gants quand on donne l'image du père, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour certaines personnes quand on prononce le mot père. Ça s'est tellement mal passé avec leur père biologique que c'est compliqué. Mais j'aimerais que vous puissiez imaginer le père idéal. Le père idéal dans une maison. Est-ce qu'on se force pour parler avec lui? Ou je pourrais parler d'un couple. Est-ce qu'on se force pour parler à son conjoint? Si on en est là, c'est qu'on peut se poser des questions dans notre relation. Mais quand tout va bien, ce n'est pas un problème de se prendre du temps, de parler ensemble, d'être ensemble, tout simplement. En fait, prier, c'est d'abord vouloir être avec Dieu. En relation avec lui, c'est ça. Parfois, on pourrait se mettre dans sa chambre sans but, en fait, sans autre but que de dire « Je veux être juste avec toi. Toi et moi, tout seul, ensemble. » On va voir trois points dans cette étude. La dimension de communion et d'amour dans la relation. Ensuite, la dimension de consultation. Et la dimension de partage. Je ne prétends pas être exhaustif, hein, mais c'est ces trois points que le Seigneur a mis sur mon cœur alors que je priais. Le premier point, la prière, c'est une relation de communion et d'amour. Dans l'enseignement sur la prière, c'est la première chose que l'on voit. Dans Luc chapitre 11, verset 2, il dit « Père ». D'abord, c'est le mot « Père ». Donc ça a une signification énorme, on ne peut pas se rendre compte. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et dans Matthieu, vous savez que la prière dominicale, on la trouve également dans Matthieu, Matthieu 6, 9 à 10, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous sommes appelés, je le disais tout à l'heure, à venir à lui uniquement pour la relation, pour lui dire combien il est grand, combien nous l'aimons, et combien nous voulons faire sa volonté. Ça doit être le premier élan de mon cœur. Parce que le problème, on le sait tous, c'est que le premier élan de nos cœurs pour aller avoir un entretien avec le Seigneur, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Non, c'est pas comme ça chez vous? On dit, ah tiens, ce serait bien que je prie là parce que je passe un examen. Ah. Moi, ça a été un élément dans ma conversion. Je me souviens, je préparais le bac, c'est il y a très très longtemps. Je préparais le bac, moi j'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur, mais j'ai toujours cru au Seigneur, même si ma vie c'était pas très bien. Mais on pouvait pas m'empêcher de dire Dieu il existe. J'avais reçu ça de mes parents et j'ai dit tout ça c'est de la foutaise, Dieu n'existe pas et ça. Jamais j'ai pensé ça. Même si je ne lui avais pas donné mon cœur, je croyais qu'il existait. Et donc, évidemment, quand le bac approche, oh Seigneur, et là, je commençais à avoir des temps de prière. Et j'ai commencé à devenir un homme de prière, dis donc. Et puis, un culte, je me rappelle, un dimanche matin, à l'église d'Albi, je me rappelle encore la place où j'étais assis, à quel endroit j'étais assis. Le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit « Et alors ? Et alors ? Si tu as le bac, si tu n'as pas le bac, est-ce que tu continueras à prier comme tu fais là ?» Et là, devant toute l'église, j'ai levé la voix et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai vraiment été touché. C'est quand le Saint-Esprit vous touche, c'est comme ça. Et là, j'ai dit « Seigneur, que j'ai le bac ou pas, ça va continuer. Je ne veux pas jouer avec toi. Je ne m'amuse pas avec toi. » Et le Seigneur est bon puisque ça a continué. Je pense que c'est important qu'on soit d'abord là pour avoir un temps et pas être là pour demander. Un temps pour l'élever, un temps pour que son nom soit sanctifié. Vous savez qu'à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on se met à prier, on sanctifie son nom. L'expression n'est pas bonne, il n'y a pas besoin d'être sanctifié le nom de Dieu. Mais on honore, on glorifie son nom. Sanctifier, même l'étymologie du terme, c'est mis à part. Hein. C'est du temps qu'on met à part pour son nom. Amen. C'est le but du sabbat. Hein. Relisez les textes sur le sabbat. C'est pour sanctifier son nom. C'est une mise à part pour lui. Et le sabbat, aujourd'hui, on n'est plus sous la loi. Alors les gens disent, ouais, maintenant, on n'est plus sous la loi, oui. Mais ça veut dire que c'est tout le temps, le sabbat. Ce n'est pas un jour par semaine. C'est tout le temps. Il y a beaucoup de amen. Dans Matthieu, au chapitre 17, versets 1 à 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cette relation montée sur la montagne, c'est l'image de la prière. Hein, dans la Bible, on monte pour aller, et là Jésus était monté clairement pour aller être en communion avec son Père. Et pourquoi je veux vous encourager ? La prière, c'est ce qui nous transforme. Le face-à-face avec Dieu, on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait. Ça nous change. Vous connaissez l'histoire de Moïse, hein, comment il est redescendu. Vous ne pouvez même pas le regarder, tellement son visage... Cette relation, elle opère des changements radicaux. Et souvent, on est là avec nos efforts, on est là avec notre morale chrétienne, on est là avec ce qu'on nous a éduqué, qu'on nous a appris pour essayer de devenir meilleur, mais on échoue tout le temps. La seule chose qui nous transforme, c'est le contact avec le Père Céleste. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui a une influence, c'est un influenceur. Un influenceur extraordinaire. Il change, il retourne notre cerveau. Il change notre manière de penser, de voir. Notre vision est transformée au contact du souverain Seigneur. L'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Ah, vous avez du mal. Nous sommes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Amen. C'est extraordinaire. Le mot transformé, c'est métamorphoéo, je crois, de souvenir. C'est ce qui est utilisé pour la chrysalide. Vous avez déjà vu un ver, une chenille avant la chrysalide ? Nous, on a eu cette chance il y a quelque temps, là, où il y a une espèce de truc qui s'est mis. Là, donc on l'a transporté, on l'a mis dans notre véranda. Je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Une espèce de chenille, mais qui était là, on touchait, ça ne bougeait plus. Mais bon, c'est mort. Et puis, au bout d'un bon moment, on a vu un papillon dans notre véranda, un truc extraordinaire, magnifique. Et très longtemps après, hein, on disait, bon, ce truc, il n'y a plus rien. Quoi. Mais non, il y avait la vie. Amen. David dit dans le psaume 27, 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pour contempler, pas pour demander, pas pour obtenir, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Est-ce que c'est ce que nous voulons, mes frères et sœurs ? Premièrement, est-ce que c'est ce que nous voulons ? Moi, je vous encourage vraiment. Je peux témoigner que ce qui m'a changé, c'est la prière. C'est la relation avec Dieu. Sa parole, parce qu'on va le voir dans la prière, il y a la lecture de la parole. Notre chair ne veut pas ces choses. Vous avez remarqué ? Est-ce que votre chair vous dit « Ah, tu devrais aller prier, là ?» Elle vous le dit, à vous ? Moi, elle ne me l'a jamais dit. Au contraire, elle me dit « Mais non, ben, c'est bon, tu pries déjà, c'est comme ça. Écoute, arrête de te culpabiliser, allez, c'est bon, vas-y. » Mais le Saint-Esprit, lui, il nous pousse à vouloir toujours plus. Amen. Le deuxième point, c'est la relation de consultation. C'est la deuxième partie de la prière enseignée par Jésus. On la trouve dans Luc chapitre 11, verset 3, et il y a l'équivalent dans Matthieu 6, 11. « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Amen. Vous avez faim ? Ouais. Eh bien, dommage, parce que ce n'est pas le pain qu'il y a sur la table dont il est parlé là. Et pour ça, je sais qu'il y a des grandes discussions là-dessus et que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, écoutez, quand je lis le chapitre 6 de Matthieu, on ne peut pas avoir un doute sur le fait que c'est du pain spirituel dont Jésus parle. Quand on lit tout l'enseignement qu'il donne dans Matthieu 6, je ne vois pas de quoi il peut parler d'autre. Le pain, c'est l'image de Christ. Je suis le pain de vie, c'est l'image de la parole. C'est ces pains qui étaient là dans le lieu saint, vous le savez. En fait, dans la prière, et c'est quelque chose que je réalisais tard, moi je disais, je lis la parole et je prie. Mais non, mais quand vous lisez la parole, vous priez. Parce que quand vous lisez la parole, vous êtes en relation avec Dieu. Et même, je dirais que vous êtes dans une très bonne relation avec Dieu parce que c'est vous qui écoutez. Parce que la plupart du temps, quand on prie, qui c'est qui parle ? C'est moi. Or, quand j'ouvre la parole, alors évidemment, si je fais comme il faut, hein, si vous lisez, c'est pareil, le rituel, c'est valable pour la parole aussi. Hein. J'ai lu ma petite pensée du jour, j'ai lu mon petit verset, je pars au boulot, j'ai fait mon petit devoir de chrétien. C'est très bien, mon frère, ma soeur. Mais rien ne va changer dans ta vie. Hein. Lire la parole, c'est vraiment la méditer. C'est être capable de venir devant Dieu et dire, Seigneur, moi, je veux que tu me parles là. Je ne veux pas comprendre ta parole avec mon intelligence. Je veux que ton Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Et ça, si on n'a pas cette attitude et si on n'a pas cette volonté, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce qu'on a la volonté, mais parce que le fait qu'on en ait la volonté fait intervenir le Seigneur. Cette parole, nous en avons besoin. Et plus les temps sont proches, et plus nous avons besoin de la parole. Et si vous négligez la parole, j'en reviens à l'année 2022, année du retour à la parole, vous vous souvenez ? Si nous négligeons la parole, il ne faut pas s'étonner que bien, petit à petit, nous disons « Ah tiens, je suis revenu à des choses que j'avais abandonnées, c'est quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ou « Ah, j'ai pu entendre un faux prophète là, je ne me suis même pas rendu compte qu'il m'a retourné le cerveau. » Oui, si tu n'es pas attaché à la parole, tu risques de te faire embarquer aujourd'hui en plus avec tous les moyens technologiques qu'il y a pour écouter des prédications, je vous assure. Moi, je reçois des prédications, des machins, on m'en envoie de tous les côtés. Mais alors, il y a des choses, c'est catastrophique. Hein. Et c'est des gens qui sont suivis par des milliers de personnes. Mais ces personnes ne connaissent pas la parole. Donc évidemment, quand on vous parle de choses spectaculaires, moi Dieu m'a parlé, moi Dieu m'a donné une prophétie, moi Dieu, mais quand le gars il parle, vous dites, hey, ça colle pas avec la Bible ce que tu me racontes là. Donc attention, la parole, c'est ce qui nous nourrit aussi. Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être chrétiens sans se nourrir et rester en vie. C'est comme si l'un d'entre vous disait, ben maintenant je ne mange plus. Mais t'inquiète pas, dans 3 mois je serai encore là. Ben non mon gars, si tu ne manges plus, dans 3 mois tu ne seras plus là. Physiquement parlant, on est d'accord. Hein, mais spirituellement parlant, c'est la même chose. Si on ne se nourrit pas, au bout d'un moment, on meurt. Alors Dieu soit béni parce qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il prend soin de ceux qui ont un temps de relâche, etc. Je sais que Dieu nous aime, heureusement. Et je parle pour moi en premier. Dieu nous aime malgré que souvent on ne soit pas à la hauteur. Mais ça ne doit pas nous donner l'excuse de nous laisser aller. Et vraiment, je veux vous encourager à revenir à la parole. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il est dit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Vous savez pourquoi il a fait ça ? Ceux qui sont là le mardi soir, vous le savez. Pourquoi il a passé toute la nuit à prier, Jésus ? Pour choisir les 12. Quand vous avez une décision importante à prendre, n'hésitez pas à passer du temps dans la prière, mais à l'écoute de Dieu. Pas... Vous savez, il y a des choses où on prie pour que Dieu vienne dans notre sens. Ce n'est pas ça l'attitude de la prière. La prière consultative, c'est vraiment d'aller vers Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ?» Et si c'est non, tu me le dis et ce sera non et je suis OK si c'est non. même si c'est quelque chose que je veux de tout mon cœur, si tu me dis non, ce sera non. Et croyez-moi que quand vous faites ça, le Seigneur, il est libre de vous parler. Quand vous lui demandez son avis, mais que de toute façon, vous, vous ne changerez pas, il ne perd pas du temps à vous parler. Hein. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois on peut se demander, tiens, Dieu ne me parle pas, pourquoi ? Parfois, c'est parce qu'on n'est pas prêt à l'écouter. Et cette soumission, c'est tellement important de pouvoir dire, Seigneur, même si ça ne va pas dans le sens où je veux, ben je t'écoute, Seigneur. Parce que toi, tu vois plus loin que moi, tu vois l'avenir, tu vois toutes les conséquences de ma décision. Moi, je ne vois pas. À court terme, ça a l'air super, mais peut-être qu'à long terme, je vais le regretter. Donc, Seigneur, on a cette chance de pouvoir s'adresser à celui qui voit plus loin. Dans Matthieu 6,6, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hein? Et c'est tellement bien de pouvoir s'isoler pour étudier la parole, pour passer un temps avec lui, pour le consulter. Parfois, pas forcément au travers de sa parole. Parfois, il nous parle, regardez l'expérience que j'ai vécue hier matin. Seigneur m'a parlé, sans que j'ouvre la Bible, il m'a parlé dans ma tête pour me dire, tu vas prêcher là-dessus, tu vas dire ça, ça, ça. Dieu nous parle. Je n'ai pas entendu une voix audible. C'est venu là, dans mon esprit. Dans Actes chapitre 13, on ne va pas lire le texte, il va s'afficher, mais je veux gagner du temps parce que le temps avance. Au moment d'envoyer les apôtres, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben, ils jeûnaient, ils priaient. Ils se mettaient ensemble, ils disaient, Seigneur, montre-nous, c'est qui qu'on doit envoyer à tel endroit ? Qui tu as choisi, etc. Le psalmiste dans le psaume 105, verset 4, dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Chercher sa face, c'est autre chose que juste prier, faire sa petite récitation. Chercher sa face. Troisième et dernier point, la relation de partage. C'est la troisième partie de la prière enseignée par Jésus. Dans Luc 11, 4, il est dit « Il nous conseille de demander pardon pour nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. » Et puis, ce fameux combat contre la tentation qui est évoqué, qu'on retrouve dans Matthieu 6, 12, 13. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis, « Protège-nous de la tentation et délivre-nous du malin. » On a la possibilité de tout partager avec Dieu. Bien sûr que, faut pas tomber dans, vous savez, l'effet de balancier, hein, où après on dit, ah mais non, mais il faut rien demander à Dieu. Chaque fois qu'on est devant lui, on est juste comme ça et on l'écoute. Non, on n'a rien à lui dire, il est tout puissant, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bien sûr, c'est le premier élan de nos cœurs. Mais le Seigneur nous a dit qu'on pouvait lui partager nos besoins. Et ça, ça fait du bien. Hein. Et lisez les psaumes. Vous allez voir si les psalmistes, ils ne partageaient pas et ils n'ouvraient pas leur cœur devant le Seigneur. Même des fois, ils sont en limite en colère. Hein. Hey, comment ça, le méchant, il réussit ? Et moi qui te suis ? Il faut parler sans manquer de respect. Il faut lui dire, de toute façon, vous savez, Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de parler. Mais c'est bien de pouvoir, ça fait du bien de pouvoir parler. Et on a le meilleur confident qui existe. Amen. Des fois, on dit, ouais, je peux parler à personne, je connais personne. Des chrétiens, ils me disent ça. Mais parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est le meilleur des confidents. Viens auprès de lui. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est un moment de partage, c'est un moment où on vient demander pardon. C'est Jésus qui nous enseigne à le faire. Donc demandons pardon pour nos péchés. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose que nous devons faire. Ça s'appelle la repentance, et la repentance, ça va plus loin que le regret. C'est aussi vouloir être transformé et changé par le Seigneur. C'est aussi lui dire merci. Prenons le temps de dire merci au Seigneur. On l'a fait. On y a été invité ce matin, à travers des chants. Ne se rappelez pas tout ce qui va mal, mais aussi tout ce que le Seigneur fait de bon. C'est des temps aussi où on peut prier pour les perdus. C'est une chose sur laquelle on insiste. On est dans l'année de la moisson. On veut voir des perdus qui se tournent vers le Seigneur. Mais si on ne prie pas, Jésus a dit « Priez !» Quand il a vu la foule sans berger, il a dit « Priez le maître de la moisson !» Il faut qu'on aille devant le maître de la moisson et qu'on prie. Et on peut lui faire part de nos besoins. On a des besoins, tout le monde a des besoins. Et on a la chance d'avoir celui qui peut répondre à tous nos besoins. Donc on peut lui en faire part. Vous voyez que si vous faites tout ça, il y en a qui me disent « Ouais, moi, prier une heure, j'y arrive pas, hein, c'est compliqué. » Moi, j'ai pas assez de temps à une heure. Hein. J'ai pas assez de temps à une heure. Quand je veux voir tout ce que j'ai à voir avec le Seigneur, une heure, ça suffit pas. Et puis, il y a ce combat spirituel qu'on doit mener. Hein. Dans Matthieu 26, 36 à 45, tu peux faire dérouler le texte. Petit à petit, pendant que je parle, mais vous connaissez l'histoire hein, où Jésus prend ses disciples avec lui. Et il est tout près du moment où il va être arrêté. Où il sait qu'il va être ensuite crucifié. C'est un moment difficile pour Jésus. Et le réflexe de Jésus, ce n'est pas dans un premier temps de s'isoler. Le premier réflexe, c'est de prendre ses trois apôtres les plus proches et leur dire « Venez avec moi. Venez avec moi. On va prier. » Et puis à un moment donné, il se retire pour être seul face à face. Vous voyez, il y a les deux dimensions collectives, individuelles. On la retrouve souvent dans la parole, les deux dimensions de la prière. Et puis quand il est tout seul, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il déverse son cœur devant son père. Il parle à son père en fait. Je le disais tout à l'heure, le mot père, ce n'est pas innocent dans la prière du Notre Père. Appeler Dieu un père à cette époque-là, c'était révolutionnaire. Dieu, si je vous rappelle, vous approchiez de la montagne où il était, vous partiez en arrière, vous étiez mort. Et là, d'un seul coup, on dit, mais c'est ton père. Hein, c'est mon père, celui que je ne peux pas toucher, sinon je meurs. C'était révolutionnaire, mais Jésus annonçait la nouvelle relation qu'il venait établir en offrant sa vie à la croix. Amen. Et là, il va y avoir ce temps de prière, ce temps où les disciples vont être encouragé à prier. Vous savez ce qui s'est passé. Hein. Quand il est revenu, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait, disciples? Il dormait. Voilà, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. La différence entre les disciples et Jésus, c'est que les disciples ne voyaient pas ce qui se passait, ne comprenaient pas ce qui se passait. S'ils avaient compris ce qui se passait, ils auraient prié, hein, je vous assure. Ils n'auraient pas lâché l'affaire. Hein. Ils n'ont pas compris. Alors que Jésus savait exactement ce qui se passe. Et que le Seigneur ouvre nos yeux. Parce que quand on prendra conscience du combat spirituel, des enjeux, on ne va pas avoir besoin de nous dire d'aller prier. On va le faire. On va le faire parce qu'on voit nos enfants, nos ados grandir et pour la plupart se tourner vers le monde. Et si on ne réagit pas, si là on n'est pas conscient qu'il faut qu'on se mette à prier, alors je ne sais pas quand on en sera conscient. En conclusion, la prière, c'est une relation et une relation permanente. Avec des temps où on est en pensée avec Dieu, et on essaye d'être le plus possible en pensée avec Dieu, même sur son lieu de travail, partout, dans tout ce qu'on fait. Et puis ces temps où on est réellement avec lui, en tête à tête. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 à 19, il est dit ceci, « Priez sans cesse !» Priez sans cesse. Là, vous dites, « Je peux pas, moi. Je dors, je travaille. » Non, mais c'est avoir sans cesse cette relation avec le Seigneur. Ça ne vous est pas arrivé? Moi, ça m'est arrivé de me réveiller et de parler en langue. Ça ne vous est pas arrivé? Je peux pas m'en vanter. Je ne contrôle pas ce que je fais pendant que je dors. Mais le Seigneur est bon. Pendant qu'on dort, il est là, il est avec nous. Il maintient cette relation. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Cette vie de prière, elle va permettre que l'esprit vive. Nous, on veut des réunions. Des réunions où en instant, il y a un gars là sur l'estrade là, qui motive tout le monde. Allez, venez, allez, on va prier pour vous. Tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Mais après, et après, derrière, c'est prier sans cesse. C'est tout le temps. Et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous rechargez à chaque fois que vous venez au contact du Seigneur. C'est pas attendre une fois là qu'on ait une espèce de visitation. C'est bien. C'est quelqu'un un jour, j'ai bien aimé cette image, quelqu'un a comparé ça entre un jet d'eau à forte pression et puis, ça m'échappe le nom, un goutte à goutte, là, vous savez, les systèmes d'arrosage des jardins, goutte à goutte. C'est quoi qui est le meilleur ? Le goutte à goutte. Mais nous, on veut le gros jet d'eau, là, le truc où... Ah ! Mais en fait, c'est bien, il faut aussi des temps comme ça. Moi, j'ai été béni dans des temps comme ça, je ne les dénigre pas. Mais si on s'attend qu'aux événements, aux moments particuliers, là où il y a une visitation de l'esprit, eh ben, entre les deux moments où ça se passe, ben, on va être en souffrance. Hein. Mais s'il y a le goutte à goutte, c'est tout le temps qu'on est renouvelé. C'est tout le temps qu'on est renouvelé. Amen. On est tout le temps rempli de l'esprit. L'esprit, il est là. Il nous entretient. On n'éteint pas l'esprit. Amen. Romains 8, 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Écoutez-moi, si quand on est en difficulté, l'Esprit vient prendre le relais pour nous aider, ça veut dire que c'est important la prière, non ? L'Esprit, il n'a pas du temps à perdre. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il considère que c'est important. Et là, il nous a dit que la prière, au travers de ce verset, c'est vraiment important. Amen. On va prier quelques instants. On va prier, Seigneur. J'aimerais vous encourager encore ce matin à prendre des engagements. Vous savez, on peut partir de cette réunion et que tout soit comme avant. C'est ça qui est terrible avec l'être humain. Et je parle pour moi comme pour vous. On est capable d'entendre le Seigneur nous parler et on repart et on ne change rien. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Repartons en disant maintenant, je vais reprendre les choses en main. Peut-être certains n'en ont pas besoin. Donc, ok, super. Et tant mieux, hein, c'est possible. C'est possible. Mais si tu en as besoin, approche-toi du Seigneur là maintenant. Dis, Seigneur, viens me renouveler. Viens me secourir, Seigneur. J'ai trop négligé ma relation avec toi. Je ne peux pas dire que je suis quelqu'un qui prie sans cesse. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me secourir. J'ai besoin de changement dans ma vie. Et je sais que ce n'est pas avec des choses événementielles que ça va me secourir, mais j'ai besoin du goutte à goutte, de cette relation permanente qui me renouvelle au quotidien. J'ai besoin de ça, Seigneur. C'est ça que je veux. Amen. Je m'adresse aux ados qui sont parmi nous, aux enfants qui sont parmi nous, à peut-être même aux personnes âgées qui disent oh, « Moi, à mon âge, qu'est-ce que je vais vivre de plus ?» Non, non, non. Regarde Anne dans le temple. Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Dieu veut que tu reviennes à ton premier amour. Il veut redonner cette flamme. Il veut redonner cette flamme à ta vie ce matin alors que nous prions. Amen. Seigneur, ensemble, nous tenons devant toi. Tu vois tous mes frères et sœurs qui s'approchent de toi et qui ont ce besoin maintenant de remettre les choses en ordre. Seigneur, je te prie de les encourager, de les toucher maintenant par le Saint-Esprit, de les aider. Que tu nous aides tous, Seigneur. Je te prie pour ma part que tu m'aides aussi dans mes moments personnels, à que ce soit moins ritualisé, mais que vraiment je puisse m'attendre à vivre des choses exceptionnelles avec toi, dans mon face-à-face, Seigneur, que j'ai chaque jour. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour mes frères et sœurs, que nous puissions être revitalisés tous dans cette église, dans le domaine de la prière. On veut plus de toi, Seigneur. On veut voir plus de choses, mais toi aussi, tu veux plus de nous. Alors on veut répondre présent et on veut te donner gloire, non pas par ce qu'on dit, mais d'abord par ce qu'on est et par ce qu'on fait. Merci, Seigneur. Merci de nous aider les uns les autres. Merci pour ta grâce, pour ta patience et merci aussi de nous parler. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. À Dieu la gloire.